Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Dès son retour de Bruxelles, la chancelière allemande tend la main au conservateur bavarois et escompte s'offrir ainsi quelques répits en faisant montre de fermeté à l'égard des réfugiés. Nous serons dans un instant en ligne de Berlin. Maïwenn Bordron s'est rendue à l'arrivée de la marche des cobayes Fosses-sur-Mer, Paris. Quantité de conférences long de la route pour demander vérité et justice pour la santé environnementale. Toujours à Paris, la marche des fiertés contre toutes les marques d'homophobie, y compris dans le sport, témoignage dans cette édition. Enfin, nous rendrons à Grenoble où le mouvement Génération de Benoît Hamon ambitionne de devenir un parti politique. Reportage de Laurence Perron. La fenêtre était étroite, il est toujours prévu d'ailleurs que les états-majors politiques allemands se réunissent demain, alors il ne fallait pas attendre et Angela Merkel n'a pas attendu pour articuler quelques propositions susceptibles de répondre aux attentes de ses détracteurs de la CSU, comme celle qui consiste à placer des réfugiés déjà enregistrés dans un autre pays de l'Union européenne dans des centres spéciaux aux conditions de vie plus restrictives. Bonsoir David Philippot.
Bonsoir.
David, ces mesures, dont on ne connaît pas les détails, peuvent-elles faire bouger les lignes et établir un autre rapport de force au sein de la coalition ?
Écoutez, on est vraiment dans un entre-deux. En théorie, le texte adopté par les 28 à Bruxelles a tout pour satisfaire le bouillonnant ministre allemand de l'Intérieur et donc mettre fin à la grave crise gouvernementale qui menace de faire tomber la coalition de la chancelière. Pour amadouer Horst Seehofer, Angela Merkel a fait rajouter un paragraphe sur les flux migratoires secondaires au sein de l'Union européenne. Elle l'a négocié exprès pour lui. Dans la foulée, elle a donc ficelé 14 accords bilatéraux pour réguler les arrivées secondaires et le cas échéant, même avec des pays comme la Grèce et l'Espagne, pour envoyer sans délai les migrants dans leur pays d'enregistrement. C'est une performance diplomatique. Dans ce contexte, une surenchère supplémentaire serait du suicide, juge le journal de sa propre circonscription du ministre de l'Intérieur. Mais Crazy Horse, comme il est parfois surnommé, est très imprévisible et certains dans son entourage interprètent différemment le compromis européen. Ce serait en réalité un feu vert à son plan de lutte contre l'immigration illégale. Mais comme Angela Merkel reste intransigeante sur le principe d'accord du pays voisin et qu'elle contredit sa volonté de refouler les migrants aux frontières allemandes, si son ministre campe sur sa position, cela pourrait donc faire voler en éclats sa majorité. Tout dépend donc, vous l'avez dit, de la journée de demain. La CSU bavaroise se réunit l'après-midi à Munich pour évaluer les résultats du sommet. La CDU de Merkel fait de même, mais à Berlin. Les deux familles conservatrices font chambre à part. Mais pour l'instant, Mathieu, selon les dernières tendances ici, aucune des deux ne souhaite le divorce.
Merci à vous, David Philippot, en direct de Berlin. Et une déclaration du porte-parole du gouvernement hongrois sème le trouble. Selon Zoltán Kovács, aucun accord bilatéral n'a été signé avec Berlin sur les demandeurs d'asile. Les arrêtés, on le voit du sommet de Bruxelles d'hier et d'avant-hier, sont encore sujets à interprétation. Dans le sud-ouest syrien, des bombardements, des accords approuvés dans certaines localités par l'armée syrienne libre et des négociations sans lendemain dans d'autres villes. Ce qui a été refusé par ceux que Damas nomme les rebelles, c'est le retour des troupes gouvernementales dans ces zones. La coalition du Sud leur préfère les institutions civiles du gouvernement syrien, appuyées par des membres de la police militaire russe. Violence sans fin en Centrafrique entre émanations de l'ex-rébellion de la Seleka qui a renversé le président Bozizé en 2013 et les milices anti-Balaka prétendant défendre les non-musulmans, des combats d'envergure dans le nord. Un prêtre a été assassiné au centre du pays. Fin de parcours à Paris pour les participants à la marche Vérité et Justice pour la santé environnementale. Tout est dans le point de départ. Fosses-sur-Mer, nœuds pétrochimiques s'il en est. La pollution, la malbouffe, les effets secondaires de certains vaccins ou encore le nucléaire. Large spectre d'indignation, de revendications, d'estrade en estrade. La marche a en effet donné des conférences au fil de sa progression. Bonsoir Maïwenn Bordron.
Bonsoir Mathieu.
Maïwenn, cette marche c'est un peu en quelque sorte la convergence des luttes comme le disent eux-mêmes les organisateurs.
Empoisonnés, intoxiqués, tous concernés. Un maître mot pour les manifestants cet après-midi, l'unité du combat en faveur de la santé et de l'environnement. Comme l'explique Michel Rivasi, député européenne Europe Écologie Les Verts, à l'origine de cette marche, qui a pris la parole.
Plutôt que chacun se batte, voyez, dans son couloir, eh ben, il faut qu'on se rassemble. Et ça, c'est une première réussite. C'est qu'ici, vous avez plein d'associations différentes. Aussi bien des associations sur les médicaments, sur les vaccins, sur la pollution de l'air, sur les pesticides, le chlordécone.
Marie est une retraitée d'Aix-en-Provence. Elle est par exemple victime des effets secondaires du lévothyrox, le médicament utilisé par les malades de la thyroïde. Elle fait partie des 10 marcheurs qui ont parcouru 760 km entre Fos-sur-Mer et Paris. Et elle tenait à participer pour faire bouger les choses à son niveau.
C'est la technique du colibri, vous voyez, la petite goutte d'eau dans le désert alors qu'il y a le feu partout. Ouais, mais colibri, il met sa goutte d'eau. Il participe, quoi. Voilà.
Philippe Verdol, lui, est venu de Guadeloupe pour assister à l'arrivée de la marche. Le président de l'association Envie Santé dénonce les dégâts du pesticide chlordécone aux Antilles. Pour lui aussi, c'est important que toutes les associations environnementales s'unissent.
À travers la diversité des expériences, je crois que chacun ressent quelque chose de familier. Il y a une souffrance qui est familière et puis il y a surtout une aspiration à ce que ça change, à ce que ça se transforme.
Les aspirations au changement sont également partagées par les passants sur la place Stalingrad où étaient réunies les associations cet après-midi. Ingrid, 28 ans, approuve l'idée de cette marche unitaire.
Pour moi, c'est des sujets qu'il faut aborder tous ensemble, en fait. Enfin, c'est difficile de dire je vais manger bio et en même temps je vais continuer à polluer la planète. Enfin, pour moi, ça marche ensemble, en fait.
Reste désormais à sensibiliser l'ensemble des Français sur cette problématique et ce n'est pas gagné. Cet après-midi, il y avait une petite centaine de participants. La faute, sans doute, au hasard du calendrier. La marche des LGBT avait également lieu cet après-midi, tout comme le match France-Argentine.
Merci à vous, Mayouen Bordron. Vous n'en connaissez pas le score ?
4 à 3
pour la France, un qualifié en quart de finale aux dépens de l'Argentine, de Lionel Messi. Merci pour toutes ces précisions et ces paroles. S'amuser, tenez, et continuer le combat. Deux mots d'ordre qui ont rythmé le défi des Parisiens de la marche annuelle des fiertés. En vedette, les couleurs de l'arc-en-ciel, symbole des lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes. Les enquêtes révèlent toutes, sans exception, une augmentation des actes et des insultes homophobes. En témoignent les récits qu'Alice Serrano a recueillis, dont celui de Pascal, du Coq Festif, un club de rugby homosexuel.
C'est aussi l'occasion de montrer que y a des gays dans le sport, certes dans le sport amateur, mais sûrement aussi dans le sport professionnel et que ça commence à être visible. Hein.
Et est-ce que vous trouvez que vous êtes encore victime de discrimination dans le sport ?
Je pense que oui, c'est pour ça aussi qu'il y a des clubs qui sont exclusivement gays. Pardon. Donc le fait de jouer entre nous a son importance et c'est pas encore suffisamment ouvert pour qu'on puisse aller jouer ailleurs. Les associations gays sont importantes justement pour qu'on puisse être visible et puis se sentir aussi à l'aise.
Et au Swaziland, enfin l'ex-Swaziland, dans l'Eswatini, la dernière monarchie absolue d'Afrique. Première marche des fiertés cet après-midi, 500 personnes ont osé défiler dans les rues de la capitale, Mbabane, pour demander l'égalité des droits dans un pays où l'homosexualité est interdite. Il est 18h et presque 8 minutes. Vous écoutez le journal de France Culture. Plusieurs centaines d'employés de Ford, des anciens de GMS et des cheminots ont manifesté cet après-midi dans le centre de Bordeaux pour protester contre la fermeture de l'usine Ford à Blanquefort et plus largement contre la précarité. Le parti Les Républicains, réuni en Conseil national, s'est penché sur ses nervures européennes avec pour ambition de trouver un point d'équilibre. Un consensus dont le président du parti a présenté tout à l'heure quelques lignes directrices, pas d'élargissement de l'Union européenne, et un grand soir, oui, un grand soir des compétences pour rendre aux États la possibilité de décider dans toute une série de domaines. Fin de citation. Génération tient, elle, sa convention. La formation de Benoît Hamon, elle, accélère sa mue, sa transformation de mouvement en parti politique. Ses dirigeants prétendent que Génération compte 1000 comités locaux et plus de 60 000 membres, cap sur les européennes de l'année prochaine et avant toute autre chose sur l'union de la gauche et ce n'est pas gagné. En témoigne ce reportage de Laurence Perron.
C'était, oui, il y a peu, l'anniversaire de Benoît Hamon. On est aussi à un jour près celui de l'anniversaire de son départ du Parti Socialiste, de la fondation de ce mouvement du 1er juillet, devenu aujourd'hui Génération. Isabelle, socialiste démissionnaire, l'a rejoint en décembre. Ça démarre doucement, mais bien, selon elle.
Sur le terrain, ça foisonne. Il y a des gens qui viennent de partout, qui n'étaient encartés nulle part avant. Je crois que c'est à peu près 70%. Bonjour.
Il a l'air un peu fermé en arrivant, Benoît Hamon.
Vous avez l'air de faire la tête.
Mais j'arrive, attendez, ça va ?
C'est vrai qu'il n'a pas été été épargnée dans la presse ces derniers jours. Les déclarations du patron d'Europe Écologie Les Verts, David Cormann, fermant la porte au Rassemblement pour les Européennes, n'aide pas non plus. Mais pour le maire de Grenoble, l'écologiste Éric Piolle, rien n'est joué.
Travaillons ensemble en regardant cette maison commune plutôt que de la laisser brûler.
Les amis de Benoît Hamon le répètent, les Européennes, on a le temps. Laissons les tambouilles politiques de côté. Oui, mais soudain, patatras, Jean-Luc Mélenchon se met à tweeter « Je fais une offre à Benoît Hamon, renonçons aux agressions inutiles » et il relance l'idée d'un pacte de non-agression tout en proposant l'asile politique au député Régis Juanico qui vient de quitter le PS pour Génération. Réponse de l'intéressé, merci, sans façon. Et un proche de Benoît Hamon de faire mine de se réjouir, ça prouve qu'on est une force qui compte si on les préoccupe autant. Ou alors que la décomposition-recomposition à gauche a encore de longs combats devant elle.
Laurence Perron, à Grenoble, les grandes lignes météo de demain dimanche, pic de chaleur au nord et à l'est, dégradation orageuse sur l'ouest en fin de matinée. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique, Florent Bujon.